On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et on va lire un psaume qui est très connu. C'est le psaume 23. Nous lisons. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et on va lire un deuxième texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10. On a l'équivalent du psaume 23 dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 10, et on va lire à partir du verset 7. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Amen. Donc ce soir, on va méditer sur le fait que Dieu veut être notre berger. Dans le premier texte, on voit le psaume 23, on voit David qui va exprimer une réalité. Vous savez que c'est pas David, il n'a pas écrit le psaume pour faire un poème ou juste pour chanter. David, il a écrit ce psaume parce qu'en fait, il met par écrit ce qu'il vit réellement. Il met par écrit une réalité, une réalité. Et on voit dans le deuxième texte, Jésus affirmer qu'il est le bon berger. Bon, alors on a encore là une preuve que Jésus est Dieu. Dieu est le bon berger. Jésus est le bon berger. Alors tout de suite, j'aimerais vous poser une question. La question c'est, est-ce que Dieu est votre berger? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que Dieu est votre berger? En d'autres termes, êtes-vous une brebis du Seigneur? Ça revient à dire la même chose. Vous allez me dire, oui, mais on n'est pas des brebis. Oui, c'est vrai. Là, c'est une image. C'est une image. Dieu ne nous compare, enfin, Dieu ne dit pas que nous sommes des animaux. Mais c'est une image. Quoique, je pense que... C'est vrai qu'il y a une différence d'intelligence entre la brebis et le berger, mais je pense que la différence d'intelligence entre nous et Dieu, elle doit être bien plus supérieure qu'à celle d'un homme et d'une brebis. Bon, parenthèse fermée. Mais Dieu est-il votre berger? Et ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que si Dieu n'est pas notre berger, on ne peut pas vivre le psaume 23. Le psaume 23, il commence en disant, Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Et toute la suite dépend du fait que Dieu est le berger. En gros, est-ce que vous pourriez dire et remplacer le prénom de David par votre prénom? Est-ce que moi je pourrais dire Cantique de Michaël, l'Éternel est mon berger? Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est votre berger? Si c'est le cas, toute la suite s'applique à vous. Mais si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas vivre, pas le réciter c'est facile, mais vous ne pouvez pas vivre tout ce psaume, le psaume 23. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors comment faire? Comment je peux être sûr que je suis une brebis du Seigneur? Comment est-ce que je peux savoir que ce psaume s'applique à ma vie? On peut se poser cette question, mais comment faire ? Partie du troupeau. Eh bien, Jésus va donner la solution. On l'a lu. Il va dire au verset 7, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Et au verset 9, il va le dire encore, « je suis la porte. » Et avant d'être le berger, Jésus, c'est la porte. Avant de nous paître, il nous donne le moyen de faire partie de son troupeau. Alors vous allez me dire, c'est quoi une porte ? Enfin, je vais vous poser la question plutôt. C'est quoi une porte ? Une porte, c'est le moyen d'aller quelque part vers autre part. Là, quand je franchis la porte de cette salle, je suis dedans, je vais dehors. Quand je la franchis dans l'autre sens, je suis dehors, je viens dedans. Jésus est la porte. Ça veut dire qu'il est le moyen, le seul moyen. Ce n'est pas écrit qu'il est une des portes, il est la porte. Jésus est le moyen pour être sauvé. C'est le moyen de rentrer dans le troupeau. C'est le moyen de rentrer dans la vie éternelle. C'est le moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Le seul moyen, c'est de passer par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Ça veut dire que pour être sauvé, pour faire partie du troupeau de Dieu, pour que l'éternel soit notre berger, il faut d'abord passer par Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? La Bible nous dit, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Par lequel ? Comme par une porte. Il n'y a pas d'autre moyen que par le nom de Jésus. Alors vous me dire, d'accord, j'ai compris, la porte c'est Jésus, mais comment est-ce qu'il faut faire pour la franchir ? Parce que c'est pas parce que je vous dis où est la porte que vous allez passer au travers de cette porte. La Bible dit aussi, dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 24, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé, vous avez vu, il est passé, comme au travers d'une porte, il est passé de la mort à la vie. Comment est-ce qu'on franchit cette porte ? Il nous est dit, celui qui écoute ma parole et celui qui croit. Comment est-ce qu'on passe par la porte ? En croyant du cœur. Croire en Jésus, c'est quoi ? C'est croire en ce qu'il a dit, mais aussi croire en ce qu'il a fait. Vous savez que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Il est mort afin que celui qui décide de ne plus rester dans ce monde-là, celui qui décide de ne plus vivre dans le péché, celui qui décide de ne pas vivre selon ce monde, puisse être sauvé. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que nous pouvons être sauvés. Oui, je ne peux pas être dans la présence de Dieu parce que je suis un pécheur, mais Jésus-Christ a été puni à la croix pour moi. Et le châtiment que je méritais, c'est Jésus-Christ qui l'a pris sur cette croix. Et à cause de son œuvre, au travers de son œuvre, je peux être sauvé. Et moi qui avant étais loin de Dieu, loin du berger, tout seul, je peux venir à lui, je peux sortir de ce monde, parce qu'on a vu un moment, il appelle les brebis d'une bergerie et elles sortent à sa rencontre, parce qu'elles entendent sa voix. Je peux sortir de ce monde, de cette vie où je suis sous l'empire du péché, sous l'empire de l'ennemi, parce qu'il y a une porte qui a été ouverte, et cette porte, elle s'est ouverte à la croix lorsque Jésus est mort pour nous. Quand Jésus est mort et qu'il a expiré, il y avait un voile qui symbolise, dans le temple, qui symbolisait la séparation entre nous et Dieu, qui a été déchirée. La porte s'est ouverte. Et si je veux que Jésus soit mon berger, il me suffit de croire en l'œuvre de Jésus à la croix. Et lorsque je crois que Jésus-Christ, non pas simplement est mort, ça c'est voir où est la porte, mais croire qu'il est mort pour moi, alors je franchis la porte. Et lorsque je saisis le sacrifice de Jésus par la foi, je rentre dans la vie nouvelle, la vie éternelle. Je passe de la mort à la vie. Il me suffit de saisir, de m'approprier, de croire ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Et tout comme on passe une porte, en croyant l'œuvre de Jésus, je passe d'un royaume à un autre, je passe du monde au royaume de Dieu, à la vie éternelle. Et au final, j'ai le choix. La porte, elle est ouverte. Maintenant, la question est, de quel côté je vais être ? Parce que personne ne vous forcera à croire en Jésus-Christ. Personne ne vous forcera à accepter le sacrifice. Personne ne vous forcera à renoncer au péché, à toute la culpabilité qu'il peut y avoir. Vous êtes libre. Mais par contre, personne ne vous empêchera d'y rentrer si vous le désirez. Au final, la foi, c'est quoi ? Ben, c'est un choix. C'est un choix. Et on a tous le choix de croire ou pas. On a tous le choix. Soit vous pouvez croire en ce que vous voulez, soit vous pouvez croire en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait pour vous à la croix. Et la Bible dit que celui qui croit en son nom, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Mais une fois que la porte elle est passée, une fois qu'on a franchi la porte et qu'on est dans le troupeau de Dieu, on va dire l'Église, alors je peux dire que l'Éternel est mon berger. Et après ça, donc il y a toutes sortes de choses que l'on va voir. Jésus dira aussi, dans cette parabole qu'on a lue au verset 16, il va dire parce qu'à cette époque-là, il s'adressait aux Juifs, il va dire « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire qu'à l'époque, Jésus était venu pour les Juifs. Et il a fait sortir les Juifs du judaïsme. Et les autres, c'est qui ? Les autres bergeries ? Ben, c'est les nations, c'est nous. C'est les Français, c'est les Martiniquais, enfin, toutes les nations qu'il peut y avoir. Et il nous est dit que Jésus appelle aussi les nations pour former un seul troupeau. Et la Bible nous dit qu'en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, il y a des enfants nés de nouveau. Un seul troupeau. Et au final, ce qui fait que je suis une brebis, c'est pas que j'aille à l'église pentecôtiste, à l'église baptiste, à l'église tout ce que vous voulez. Ce qui fait que l'Éternel est mon berger, c'est que j'ai la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix. Et lorsque j'ai cette foi, lorsque je saisis je mets en œuvre ma foi, alors je fais partie du troupeau, quelle que soit l'origine de ma bergerie. Alors maintenant, on va voir ce que fait un berger. Parce que c'est bien de savoir qu'on est une brebis, mais qu'est-ce que ça veut dire alors ? Alors on va voir trois choses. On va voir, la première chose qu'on va voir, c'est qu'un berger, ça prend soin de ses brebis. La deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'un berger, ça protège ses brebis. Et la troisième chose qu'on va voir, c'est qu'un berger, ça dirige ses brebis. Et c'est ces trois choses que l'on va voir. Alors la première, c'est que le berger, il prend soin de ses brebis. Et vous savez, Jésus, c'est pas un berger normal. On voit qu'il y a une opposition entre le berger et le mercenaire. Jésus va dire, pas simplement qu'il est un berger, il va dire qu'il est le bon berger. Quelqu'un de bon, ça veut dire qu'il veut nous faire du bien. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes une brebis du Seigneur, lorsque vous lui appartenez, Dieu veut vous faire du bien ? Dans le monde, normalement, un berger, ça fait quoi ? Pourquoi il garde les brebis, le berger ? Eh bien, il garde les brebis parce que ça va lui rapporter quelque chose. Hein, un berger dans le monde, il fait paître les brebis, pas parce qu'il veut du lait, il veut de la viande, il veut de la laine, il veut du cuir, etc. C'est ça. Un berger, il le fait parce que ça va lui rapporter quelque chose. Il va le faire parce que ça rapporte quelque chose. Mais là, Jésus va dire au verset 11, « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est pas le berger qui utilise ses brebis pour lui, c'est un berger qui sacrifie sa vie pour ses brebis. Au verset 15, il va le dire, « Et je donne ma vie pour mes brebis. » Verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Verset 18, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » On voit que Jésus, c'est un berger qui donne sa vie, qui a donné sa vie. Vous connaissez ce verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on voit cette opposition avec le mercenaire. Le mercenaire, il se met pas en peine des brebis. Ça lui fait rien que les brebis aillent bien ou que les brebis aillent mal. Il le fait parce que ça lui rapporte quelque chose. Jésus n'est pas un berger comme cela. Jésus, il prend de la peine pour ses brebis. Il est attentif, il en prend soin, et il en prend tellement soin qu'il a donné sa vie. Que dit David dans le psaume 23 ? Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Lorsque Dieu est notre berger, on ne manquera de rien. Quel que soit le besoin, des fois on peut avoir besoin dans le cœur, des besoins d'amour, des besoins de pardon, des besoins de miséricorde. Mais des fois aussi on peut avoir des besoins matériels, vous savez, besoin de travail, besoin d'argent. Jésus dira, le bon berger dira dans le sermon sur la montagne, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire ceux du dehors, qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous avez vu ? Ne vous inquiétez donc pas. Lorsque Dieu est mon berger, je n'ai pas à m'inquiéter, parce qu'il a promis qu'il prendrait soin de nous. Et tout comme un berger prend soin de ses brebis, Dieu prend soin de nous. Et si vous êtes, s'il est votre berger, alors il a promis qu'il prendra soin de vous. David dira, il me fait reposer dans de verts pâturages. Est-ce que des fois on peut être fatigué ? Ça peut arriver. On peut être fatigué par la route, on peut être fatigué par le combat, et on a besoin de repos. Mais il nous est dit qu'il nous fait reposer dans de verts pâturages et nous dirige près des eaux paisibles. Et Jésus dira, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Un renouveau. Est-ce que ça n'arrive pas des fois qu'on soit fatigué ? Fatigué de la route, fatigué du combat, fatigué d'exercer la foi. Jésus est le berger qui nous fait reposer, qui amène le repos dans notre âme. David dira, il restaure mon âme. Restaurer, c'est quand on répare quelque chose. C'est quand on le remet à son état initial. Vous avez déjà vu la restauration des tableaux ? Il y a des tableaux qui ont été faits un jour. Bon, avec le temps, ils se sont usés. Et bien, la restauration, c'est on le remet en état. Est-ce que des fois, on n'a pas besoin de restauration ? Est-ce que des fois, on n'est pas usé par certaines choses de la vie, par certaines épreuves ? Est-ce que des fois, on n'est pas abîmé ? Est-ce que des fois, on n'est pas blessé ? Ou est-ce que des fois, on n'a pas été blessé ? Parce que des fois, on se blesse parce qu'on a fait n'importe quoi, puis des fois, on n'a rien fait de mal et pourtant, on est blessé. Non ? Ben si. Il restaure mon âme. Oui, Dieu est un bon berger. Il prend soin de nous. Il pourvoit à nos besoins. Il nous fait reposer. Il restaure notre âme. Mais pas seulement. Oui, un berger, ça prend soin de son troupeau. Mais un berger aussi, ça protège son troupeau. Il nous est dit du mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. Quand il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Il dit le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. On voit que le bon berger, lui, il ne s'enfuit pas devant l'ennemi. Alors c'est qui l'ennemi ? Vous le savez. Pierre dira, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous avez vu l'image d'un lion ? Alors nous, dans notre tête, on pense au loup. En Israël, il y avait aussi les lions qui voulaient croquer les brebis. Bon. Il nous a dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et au final, on voit, oui, qu'il y a un adversaire, mais il y a un bon berger. Il y a un bon berger. À un moment, on a cet exemple, vous savez, David, il va écrire le psaume 23, mais il a été berger. Alors il sait de quoi il parle. Regardez ce que David va dire à Saül quand il va devoir aller affronter Goliath. Il nous est dit, alors c'est pour ceux qui prennent des notes, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17 et au verset du verset 34 à 37, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ah ouais, c'était pas juste un joli blondinet qui jouait de la harpe. David, c'était un guerrier. Vous avez vu ? Je le saisissais, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Mais vous savez, on comprend pourquoi David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, il faisait la même chose avec ses brebis. Enfin, je ne sais pas vous, hein. Vous seriez berger, vous voyez voir un lion. Vous voyez un lion arriver, vous faites quoi? Bon, aujourd'hui, on a le fusil, c'est plus simple. Mais bon, à l'époque, c'est pas évident. Hein. Mais voyez ce que David a fait, d'aller à la rencontre de l'ennemi, de le terrasser. C'est ce que Jésus a fait pour nous, quand il est venu à la croix. Il nous est dit que Jésus, à la croix, a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et oui, il y a un ennemi qui veut nous détruire, mais oui aussi, il y a un berger qui l'a vaincu. Et lorsque l'Éternel est mon berger, je n'ai pas à craindre à l'ennemi, parce qu'il a vaincu l'ennemi à la croix, il l'a terrassé. Et tout comme l'ennemi nous avait saisis et nous amenait en enfer, le bon berger est accouru, a tapé l'ennemi jusqu'à ce qu'il lâche, et l'a vaincu à la croix. C'est ce que Jésus a fait. Et il nous a dit que notre combat à nous, ce n'est pas de combattre comme contre le lion. Vous savez, une brebis, elle n'a pas de puissance contre le lion, l'homme, il n'a pas de puissance contre Satan. Mais c'est de croire en la victoire de Jésus à la croix. Il nous a dit, résistez-lui avec une foi ferme. Donc le bon combat, c'est celui de la foi. Et lorsque je crois que Jésus a vaincu l'ennemi à la croix, tout comme il a vaincu mon péché, alors je le vois s'accomplir dans ma vie. Et je n'ai pas à avoir peur de l'ennemi, je n'ai pas à avoir peur de lui, parce que le bon berger est venu et l'a vaincu. Et c'est sûr que une brebis face à un lion, elle peut avoir peur, mais une brebis avec un David, elle n'a pas à avoir peur du lion, parce que il l'a vaincu et il est plus fort. Hein, David dira, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tout comme David avait vaincu le lion et l'ours parce qu'il était berger, il savait que l'Éternel était son berger. Il savait très bien ce que ça voulait dire quand il dit que Dieu est son berger. Parce que tout comme lui, il protégeait ses brebis, il savait qu'il était protégé par Dieu parce qu'il avait choisi d'être sous son autorité. Sous son autorité. Et la troisième chose que David y fait, enfin que David, pardon, que le bon berger fait avec son troupeau, c'est qu'il le dirige. Il va dire, David, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Eh oui, il me dirige, il me conduit. Dieu nous conduit, Dieu nous dirige. Plus loin, il dira au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David dira, tu es avec moi. Eh oui, parce qu'un bon berger, ça n'abandonne pas ses brebis. Ça ne les abandonne pas. Imaginez que le berger dise à sa brebis, alors écoute, maintenant tu vas aller traverser la montagne là-bas, tu vas passer par les vallées, puis tu vas aller à la direction là-bas, au fond. Mais attention, fais attention, à la vallée de l'ombre de la mort, elle est difficile, et puis il y a les ennemis aussi, puis il y a des lions, puis il y a des loups. Donc qu'est-ce qu'elle va faire la brebis? Elle ne va pas faire un pas. Hein. Elle ne va pas y aller. Mais il nous est dit, David dira, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et Jésus nous a fait cette promesse. Il va dire à ses disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le berger, il nous accompagne. Et vous savez, quand il est à côté de nous, on n'a rien à craindre. Parce que lui, il a choisi de rester avec nous et de nous diriger. Alors comment il nous dirige? Il nous dirige par sa parole. Dans le psaume 119, il est écrit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu, c'est ce qu'il nous donne pour nous diriger. Et quand on médite la Bible, on a les directives du bon berger. Mais il nous dirige aussi par son esprit. Hein, Jésus dira, mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dieu nous a donné sa parole, il nous a donné son Esprit Saint pour être dirigé. Et puis enfin, il a donné aussi les ministères. Quand David dira aussi, c'est le psalmiste qui dira, tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Et à un moment, quand David il va aller combattre, il nous est dit, David se leva de bon matin et il laissa les brebis à un gardien, etc. On voit que quand il est parti, c'est ce que Jésus a fait, il est parti, mais il a laissé le troupeau sous la garde de gardiens. Ben ça, c'est l'image des pasteurs et des ministères qui ont été donnés afin de conduire le troupeau. Et enfin, dernier point, c'est oui, l'Éternel est un bon berger, mais des fois, ça arrive que les brebis se perdent. Oui, c'est les brebis du Seigneur, mais elles se perdent. Et on a cette parabole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, où Jésus va donner cette autre parabole, et il va dire que vous ensemble. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes, bon, c'est-à-dire en sécurité, pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Le bon berger, il va chercher la brebis. Est-ce que ça arrive pas des fois que on s'égare? Bon, le berger avait dit à droite et puis finalement on est allé à gauche. Ça arrive. Vous savez, une brebis toute seule, elle fait pas long feu. Hein. Mais gloire à Dieu de ce que le bon berger, il va chercher sa brebis qui s'est perdue. Et c'est ce que Jésus a fait. Au verset 11 de ce même chapitre, Jésus va dire « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Et au final, vous savez, une brebis, oui, elle peut s'égarer, mais il y a le berger qui la cherche. Et des fois, ça peut nous arriver de nous égarer. Alors comment il fait le berger pour retrouver sa brebis? Qu'est-ce qu'elle fait la brebis, généralement, quand elle est perdue? Elle bêle. Elle appelle, elle fait du bruit. Et parce qu'elle fait du bruit, le berger va à son secours. Et peut-être que quelqu'un s'est éloigné de Dieu, était dans le troupeau et a choisi de s'isoler. Mais sachez que vous pouvez crier à l'Éternel. Et lorsque l'on crie à l'Éternel, il entend et il vient à notre secours. Et il nous ramène avec le reste du troupeau. Il la ramène et en plus, il y a de la joie. Vous savez, ça c'est une des trois paraboles où après il y a aussi celle du fils prodigue qui s'est perdu. En tout cas, si on s'est égaré, Dieu nous cherche, Dieu nous cherche. Alors on va incliner nos têtes et on va demander au Seigneur sa grâce. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est pas dans le troupeau parce qu'il n'a pas encore saisi la grâce de Jésus-Christ à la croix. Il n'a pas encore fait sien le sacrifice de Jésus. Oui, c'est une chose de savoir que Jésus est mort pour vous à la croix. C'en est une autre de le saisir par la foi et de s'approprier ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Le bon berger, Jésus, le Seigneur, veut vous donner le pardon de vos péchés. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a un choix à faire, c'est celui de quitter ce monde où on vit sans berger, sans Dieu, une vie sans Dieu, livrée au péché, sous l'empire du péché, pour rentrer dans la vie nouvelle, la vie éternelle, et faire de Jésus son sauveur, mais aussi son Seigneur. Et ce soir, vous pouvez le faire, par la foi. Vous pouvez choisir de franchir cette porte, car elle est encore ouverte. Et oui, c'est encore le temps de la grâce. Et cette porte, elle est encore ouverte. Et tout comme à un moment, pour l'arche de Noé, la porte s'est refermée. Oui, la porte de la grâce va se fermer un jour. Mais ce soir, vous avez une occasion de rentrer dans le troupeau du Seigneur, de saisir par la foi ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Pour nous qui sommes dans le troupeau, combien on peut être reconnaissant pour le bon berger que l'on a. Berger qui prend soin de nous, qui pourvoit, un berger qui nous protège de l'ennemi, un berger qui nous dirige là où il nous faut être. Et puis s'il y a quelqu'un qui s'est égaré, ben il est temps de crier à Jésus et de lui demander sa grâce. Mais c'est pas trop tard. Si vous appelez Jésus au secours, alors il viendra. Il vous mettra sur ses épaules et vous ramènera dans le troupeau. Si vous avez été blessé, il vous soignera. Si vous avez été usé, il vous restaurera. Si vous êtes affaibli, il vous nourrira et vous redonnera des forces. C'est ce que veut faire le bon berger. Alors on a le choix. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci encore pour la porte ouverte, pour l'aide que tu nous accordes, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour ce berger que tu es. Merci Seigneur, parce que lorsque l'on regarde à qui tu es, à ce que tu as fait, cela force notre adoration, Seigneur. Cela nous émerveille et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour toutes ces choses. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour tous ceux que tu restaures en ce moment. Merci pour tous ceux que tu rassures, que tu calmes. Merci pour tous ceux à qui tu accordes le repos. Merci pour tous ceux que tu ramènes dans le troupeau. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui viennent au troupeau. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.